I think it's the right time.
Je pense que c'est le bon moment pour moi de faire cette interview. Parce qu'il est important de faire savoir aux autres que ce n'est pas grave. Leur expliquer qu'il ne faut ni avoir honte, ni avoir peur d'être méprisé par les gens. J'ai fait l'erreur de croire des choses qui étaient fausses. Et je n'aurais pas dû lui faire confiance. J'ai cru tout ce qu'il me disait. Si quelqu'un fait quelque chose de honteux, ce n'est pas le reflet de sa famille. S'il est malade dans sa tête, ça ne veut pas dire que toute sa famille l'est aussi. On partage juste des gènes. Mais je pense qu'il est temps. Vous voyez ce regard? Vous le voyez? Quelle sale petite. Regardez ce visage. C'est l'incarnation du mal. J'ai beaucoup de chance de ne pas m'être retrouvé sur son chemin destructeur. Ce qu'on voit ici, c'est un monstre. On peut lire la méchanceté dans ses yeux noirs. Je pourrais le tuer avec mes mots. Tu n'es qu'une pauvre petite. Et je suis heureuse que tu ne puisses plus faire de mal à personne. J'aurais aimé que tu sois mort avant qu'il arrive malheur à ces pauvres personnes. Parce que tu n'es rien d'autre qu'un monstre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'une page se tourne. Je ne parlerai certainement plus de ce de toute ma vie. Mes parents se sont mis ensemble au lycée. Ils avaient grandi à Fort Lauderdale. Et ils se sont mariés assez jeunes. Quand Jimmy est né, il était si petit et si mignon. J'étais la plus grande, l'aînée de la fratrie. Et je ressentais énormément d'amour pour lui. Jimmy était le bébé de la famille. Et je l'adorais. C'était mon petit frère et il était si mignon. Il a fait quelques grosses bêtises quand il était petit. Mais ce n'était pas des choses violentes. C'était de l'espièglerie. Mais dans la famille, ses agissements sont rentrés dans les habitudes. Il y en avait beaucoup. Tout le temps. Mon frère Ricky et moi n'avons jamais fait de telles choses. Je n'avais aucune idée de la tournure que tout ça allait prendre. Vraiment aucune. Je croyais le connaître, mais j'avais tout faux. Même jeune, il causait des problèmes hors de la maison. Un jour, j'ai remarqué que, dans la maison d'en face, le tuyau d'arrosage avait été glissé dans la porte d'entrée.
Maman !
En l'absence des voisins, Jimmy avait placé le tuyau dans leur maison, puis ouvert le robinet. L'eau commençait à envahir la maison. Ma mère s'est précipitée dehors. Elle a sorti le tuyau et a coupé l'eau. Je pense que sans moi, cette maison aurait été détruite. Les dégâts auraient été très importants. Ma mère lui a demandé, « C'est toi qui as fait ça? Tu as mis ce tuyau dans leur maison ?» Il a dit, « Oui. » « Mais pourquoi ?» Il a dit, « Je ne sais pas. » Il n'a pas expliqué son geste. Il s'est contenté de dire, « Oui, c'est moi. » Il a ri, mais il a avoué. C'est l'une des rares choses qu'il ait admises dans sa vie. Il a été puni pour ça, mais ça ne l'a pas dérangé. À cette époque, quand mon père le corrigeait, Jimmy souriait. Il haussait les épaules d'un air de dire « Vous ne m'avez pas eu. Vous n'avez pas pénétré cette façade. » Je voyais une facette obscure se développer en lui. Ce manque d'émotion, quand il était réprimandé, aurait dû être un motif d'inquiétude pour nous tous. Jimmy n'a jamais évoqué notre mère après son départ. Il n'a jamais versé une larme. Et je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je devienne moi-même une maman. Et en repensant à cette époque, je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'ait jamais pleuré en pensant à notre mère. Moi, j'ai pleuré, Ricky aussi. Jimmy s'en fichait éperdument. Ce manque d'émotion, dans des situations qui peuvent bouleverser une vie, était assez révélateur, même si on l'ignorait à l'époque. Avec le recul, je me suis rendu compte que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ça n'a pas été le cas. La relation entre Jimmy et Stella a été différente dès le début. Pour je ne sais quelle raison, il ne lui parlait jamais. Je ne me souviens pas qu'ils aient jamais eu une conversation normale. Jamais. Je crois que Jimmy détestait Stella. C'est même certain. Il la détestait. Il n'éprouvait que de la colère pour elle. Rien d'autre. Stella avait une lampe qu'elle adorait. Et un jour, en sortant de ma chambre, j'ai vu qu'elle était cassée. Stella est rentrée, et quand elle a vu que la lampe n'était pas là, ça l'a mise hors d'elle. Elle était très en colère. Moi, je ne l'avais pas cassée. Ricky n'était pas à la maison. Alors, elle a commencé à questionner Jimmy. Et il a nié en bloc. J'ai pas cassé cette lampe. C'est pas moi. C'était sa réponse. Je ne sais pas. C'est pas moi. Il ne disait que ça. Je savais que c'était lui, mais il n'a jamais avoué. Il prenait des objets qu'elle aimait et auxquels elle tenait, et il les cassait.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien.
Comment peut-on avoir l'idée de faire ça? C'est tellement destructeur. Mais s'il faisait des choses pareilles, c'était juste pour se divertir. Il trouvait ça drôle. Il aimait l'idée de se moquer de n'importe qui, pour n'importe quoi. Stella avait un chien, un petit caniche, qui s'appelait Peaches. C'était un chien très intelligent, qui la suivait partout. C'était comme son bébé, mais il nous aimait bien aussi. Peaches était très gentil, un gentil chien. Un après-midi, ma belle-mère a remarqué que la patte de Peaches était enflée, comme si elle avait été piquée peut-être par une fourmi. and her whole... Elle était énorme.
Was huge.
So we got... On a donc pris la voiture et on a emmené Peaches chez le vétérinaire.
Found...
Ce dernier a découvert un élastique au-dessus de la patte.
That was...
Il était si serré que ça coupait la circulation sanguine de la patte. C'est ce qui avait causé ce gonflement. Il a coupé l'élastique. Peaches allait bien.
Oui.
Mais quand on est rentré, Stella savait que c'était Jimmy. Pourquoi as-tu fait ça au chien? Pourquoi? Il n'a pas nié cette fois-ci. Il a déclaré qu'il avait joué avec Peaches et qu'il avait oublié de lui enlever l'élastique. En vérité, les conséquences sur Peaches auraient pu être terribles. Je suis convaincue que si on n'avait rien fait, il aurait perdu sa patte. Mais je pense que Jimmy a fait ça à cause de ce que Peaches représentait pour Stella. Elle aimait ce chien. Un jour, Stella est allée faire des courses. Et quand elle est revenue, elle pleurait. Elle était bouleversée, hystérique. Je crois qu'il y avait une émeute avec des jeunes, pas très loin de chez nous. Et au moment où elle passait, l'un d'eux a jeté une brique sur le pare-brise de la voiture. Stella était couverte de verres brisés. Si elle avait reçu cette brique sur la tête, ça l'aurait tuée. C'était horrible. Elle nous a tout raconté.
C'était terrible.
Jimmy était là et... il s'est mis à rire. On lui a dit... c'est pas drôle, pas drôle du tout. Il a dit, si, je trouve ça très drôle.
Arrête!
Et il riait.
Quoi?
Il se contentait de rire. Bien fait, elle le mérite. Pas du tout, ça va pas à la tête. Avec le recul, je pense que c'était un autre signe qu'on aurait dû repérer. Parce que quand une personne se réjouit de la souffrance des autres, c'est qu'elle a un problème.
This is a picture.
C'est une photo de Jimmy.
Jimmy.
Il a le sourire, mais la lueur dans ses yeux est partie. Il n'y en a plus. Ce n'est plus le petit garçon innocent. Il est en train de changer. Sur cette photo, il change et commence à porter un masque, j'ai envie de dire. Comme s'il portait un masque. Tout le monde pensait que c'était un bon et gentil garçon. Ce qui, je pense, lui a donné le luxe de faire des choses encore plus graves. Parce que personne ne le soupçonnait. Il était si charmant. Mais ce qui se passait réellement, c'est qu'il faisait de plus en plus de choses qui allaient lui attirer des ennuis, des choses graves. Jimmy a toujours agi comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait, sans que personne ne lui dise rien. Je pense qu'à ce moment-là, les choses ont commencé à changer pour lui, à notre insu. Et la situation s'est dégradée petit à petit. Un jour, alors que je m'apprêtais à aller au lycée, mon père m'a dit que Jimmy s'était fait surprendre chez notre voisine, Alice Stock. Comment ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? C'était une femme âgée. Jimmy s'était introduit chez elle pour voler quelque chose. Mais elle s'était réveillée et elle l'avait vue. En le reconnaissant, elle lui a dit : tu es Jimmy Rhodes, qu'est-ce que tu fais là ? Et Jimmy est sorti de chez elle. La police est venue, et Jimmy a nié, comme d'habitude. Même si Alice Stock a appelé la police, Jimmy n'a pas été arrêté. Alice clamait que c'était lui, Jimmy prétendait le contraire, et ça n'a débouché sur rien. Jimmy s'en est tiré à bon compte. Vous êtes fou, je n'ai rien fait. Papa m'a dit ce que t'as fait.
J'ai rien fait.
On aurait dû se dire qu'Alice Stock nous connaissait bien. On était voisins depuis longtemps. Elle n'aurait pas pu confondre mon frère avec un autre.
J'y étais pas.
Ah oui ?
Je sais pas qui c'était, mais c'était pas moi.
Je l'ignorais à l'époque. Mais il avait une arme. Un couteau qu'il avait pris chez Alice. Il était entré chez elle avec et il l'avait menacée. Avec le recul, c'était presque comme s'il anticipait. Comme s'il se préparait à faire encore plus de mal. À partir de là, ça a été l'escalade. Ça a eu raison du couple entre ma belle-mère et mon père, qui ont fini par se séparer à cause de Jimmy. Et il savait que c'était à cause de lui. Je sais qu'il le savait. J'ai eu de la peine pour elle, parce qu'elle a subi tout ça. C'était une femme bien, vraiment. Elle a fait de son mieux avec nous, mais elle ne savait pas quoi faire avec trois grands enfants. Jimmy passait son temps à la contrarier. Et quoi qu'elle dise, il ne lui parlait pas. Il ne lui répondait même pas. Il restait assis, les yeux dans le vague. On a tous sous-estimé sa haine envers Stella, même mon père. On l'a tous sous-estimé. J'étais dévasté. Mon père aussi. J'aurais aimé que ce soit Jimmy, ce qui est horrible à dire. Mais c'est vrai. J'aurais vraiment aimé que ce soit l'inverse. Après ça, Jimmy est véritablement devenu incontrôlable. Un soir, j'ai reçu un appel de mon père. Allô ? Il était dans tous ses états. Il m'a demandé si j'étais assise. Oui, mais ne me dis pas que quelqu'un d'autre est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit : non. Par contre, ton frère est allé voir Stella chez elle et il l'a violée. J'étais hébété. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire une chose pareille à elle ou à quelqu'un d'autre. Elle avait appelé mon père à son travail. Et apparemment, quand Jimmy avait frappé à la porte, ça l'avait surprise. Mais elle n'avait pas peur. Sinon, elle ne lui aurait pas ouvert. Elle ne se doutait pas qu'il était là pour lui faire du mal. Jimmy ?
Je peux entrer ?
Oui, bien sûr.
Puis son expression a changé. Stella a dit que son regard était devenu glacial. Lui, il l'a attrapé. Et je suppose qu'elle s'est débattue. Et il a fini par la violer. Je pense qu'il l'aurait tuée. Si elle n'avait pas réussi à le repousser et à s'éloigner de lui. Il a dû alors faire beaucoup de bruit pour tenter de la rattraper. Mais comme elle vivait dans une résidence d'appartement, les voisins auraient fini par entendre tout ce remue-ménage. Alors, Il a cessé de tambouriner sur la porte. Mais Stella était convaincue que si elle ne s'était pas enfermée dans la salle de bain, il l'aurait tuée. Elle a réussi à se dégager, à courir dans la salle de bain et à en bloquer la porte pour qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Jimmy lui a dit que si elle en parlait à quelqu'un, il reviendrait la tuer. Elle a certainement dû avoir extrêmement peur. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse se montrer aussi violent. Et avec Stella, c'était brutal. J'en ai eu mal au ventre. C'était terrible, horrible. Stella nous a dit, pas question que j'aille à la police. S'il l'apprend, il reviendra me tuer. J'ai tenté de la raisonner, mais elle n'a rien voulu savoir. Alors j'ai respecté sa volonté et je n'ai rien dit. Après cet incident, je suis allée chez mon père. Quand Jimmy est arrivé, on était en train d'en parler. On lui a demandé, c'est vrai ? Qu'est-ce que t'as fait ? Jimmy, Stella dit que tu l'as violée. Est-ce qu'elle a inventé tout ça ?
Ah oui, j'imagine, parce qu'elle me déteste.
Vas-y, dis-nous.
Pourquoi elle mentirait ?
Elle ne m'a jamais aimé.
Jimmy a nié.
C'est pas moi.
Il n'y avait rien d'autre à dire, et on n'en a plus jamais reparlé. Je crois qu'il a violé Stella parce qu'il voulait exercer son pouvoir sur elle. Je pense que c'était beaucoup plus satisfaisant pour lui de savoir qu'elle allait devoir vivre avec ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir plus de honte en me disant avec le recul que j'aurais pu empêcher ça. C'était vraiment horrible. Je sais et je reconnais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je pense que ça a conforté Jimmy dans l'idée qu'il pouvait faire ce qu'il voulait en toute impunité. Après l'incident avec Stella, on a évité le sujet. On ne parlait plus de Stella en la présence de Jimmy. On a laissé de côté cette partie de notre vie. C'était certainement un mélange de peur et de déni. Parce que j'avais déjà perdu un frère. Alors je ne voulais pas perdre l'autre. J'ai donc mis des œillères sur beaucoup de choses parce que Jimmy était tout ce qu'il me restait. Mais je pense qu'au fond, j'avais peur de lui. Après le viol de Stella, ça s'est accéléré et aggravé. Un soir, j'étais au cinéma avec ma famille. Quand on est revenu, il y avait des ambulances partout. Des pompiers, des policiers. J'ignorais ce qui s'était passé. J'ai couru à l'étage et ma mère m'a dit que Jimmy était venu et qu'il avait frappé ma grand-mère, qu'il l'avait roué de coups. Ma grand-mère a dit qu'il avait frappé à la porte. En regardant par le judas, elle avait vu que c'était lui. Elle s'était demandé ce qu'il voulait, alors elle lui avait ouvert. Ma grand-mère a dit qu'il était entré et qu'il avait commencé à lui parler. Elle a dit, il m'a regardé, mais c'était comme si je n'étais pas là. Comme s'il l'a transpercé du regard.
Il y a quelqu'un d'autre ?
Non.
Elle a dit, Jimmy ? Jimmy, ça va ? Jimmy ? Elle le lui a dit plusieurs fois, mais il n'a pas répondu.
Tu vas bien ?
C'est alors qu'il s'est approché et qu'il s'est mis à l'étrangler. Sans rien dire, pas un seul mot.
Il a continué à la frapper jusqu'à ce qu'elle tombe par terre et fasse semblant d'être morte. Et quand il a fini par partir, elle a alors rampé jusqu'au téléphone pour appeler les secours. Chez ma grand-mère, c'était horrible. Toute la cuisine était couverte de sang. J'étais bouleversée. Je tremblais intérieurement. J'étais dans tous mes états. Je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi n'y croyait pas. Ma grand-mère était si gentille. Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Elle a toujours été bonne avec nous tous. La police est venue le chercher. Et ils ont alors pris des photos de son corps. Mais il n'y avait pas de sang sur lui, ni aucune trace physique. Donc, je suppose qu'ils ont pensé qu'elle était si désemparée qu'elle avait menti au sujet de son petit-fils. Jimmy nous regardait dans les yeux et clamait tellement son innocence qu'on finissait par le croire, parce que même si on le harcelait de questions, il riait et disait « Vous êtes fou, je ne ferai jamais un truc pareil !» Il avait une grande force de persuasion. Le procès a été horrible. Les journaux locaux en parlaient. Ma grand-mère a été appelée à la barre. Sur l'une des photos qu'ils ont montrées d'elle, on pouvait voir qu'elle était vieille et fragile. Mon frère a été déclaré non coupable des coups portés sur ma grand-mère, comme de sa tentative de meurtre. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer le contraire. Ils avaient des doutes raisonnables, et il a donc été acquitté. Ils ont dit que ma grand-mère était âgée et probablement confuse. J'ai été assez choquée par cette décision et par la libération de Jimmy. Et comme il n'avait pas été condamné, on s'est dit qu'il valait mieux, quand on lui parlait, faire comme si c'était une erreur et qu'il était innocent. Et c'est peut-être ce qui m'a fait croire un temps qu'il ne se souvenait pas vraiment de ses actes. Et dans ce cas, ça expliquerait qu'il soit si catégorique. C'est pas moi, j'ai rien fait. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Jimmy depuis la prison. Et il était tout content au bout du fil. J'ai dit, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Qu'y a-t-il? Tu as eu une bonne nouvelle? Tu vas sortir? Il m'a dit, non, j'ai rencontré quelqu'un ici, un mec super cool. J'ai dit, qui donc? Il a dit, Ted Bundy. À ce moment-là, j'ai eu envie de pleurer. Je lui ai dit, Ted Bundy? Qu'est-ce qui te prend de lui parler? C'est pas vrai. Je ne savais pas quoi dire. Je suis restée sans voix. Mais ça l'amusait beaucoup. Il avait rencontré cet horrible tueur. Et je me suis dit, quel genre de choses apprend-il de lui? Il a discuté longuement et de plusieurs choses avec Ted Bundy. Il lui a notamment conseillé de consulter les annonces de recherche dans l'Oregon, où il avait apparemment trouvé beaucoup de ses victimes. Je pense que Jimmy aspirait à devenir comme Ted Bundy. Les gens méchants trouvent le moyen de cacher leur méchanceté jusqu'à ce qu'ils soient prêts à la laisser s'exprimer. Et alors, c'est terrible pour les gens qu'ils trouvent sur leur passage. Jimmy était foncièrement mauvais. Tant de gens ont souffert à cause de lui. Un jour, je suis allée voir mon père chez lui. Et il y avait des voitures de police partout dans la rue. Ne sachant pas ce qu'il s'était passé, j'ai couru dans la maison pour m'assurer que mon père allait bien. Je lui ai dit, « Que se passe-t-il ? » Il m'a dit que la voisine, Alice Stock, avait été violée et assassinée. On s'est regardé, mon père et moi. Oh non. On a tout de suite soupçonné Jimmy d'être impliqué dans cette affaire. Il s'était déjà introduit chez elle par le passé. Alors c'était une sacrée coïncidence qu'après sa sortie de prison, quelques semaines plus tard, notre voisine se fasse tuer. Avec le recul, je pense qu'il est retourné chez Alice pour finir ce qu'il avait tenté de faire la première fois qu'il s'était introduit chez elle. Un jour, j'ai reçu un appel de Jimmy. Il m'a dit, j'ai décidé de changer de nom. Avec mon nom actuel, je ne serai tranquille nulle part. Les gens partiront du principe que je suis coupable, alors que je n'ai rien fait. Je vais donc changer de nom. Comment vas-tu t'appeler ? Il m'a dit, César Francesco Barone. J'ai dit, quoi ? Quoi ? Pourquoi ce nom-là ? Il m'a répondu qu'il trouvait que ça sonnait bien. Et il a donc changé de nom. J'ai pensé que c'était peut-être mieux qu'il ne soit pas soupçonné partout où il irait. Je savais qu'il avait fait des choses à ma grand-mère, qu'il en avait fait aussi à ma belle-mère. Mais j'espérais qu'il allait enfin devenir une personne différente. J'étais fière qu'il soit devenu militaire. Jimmy s'est engagé dans l'armée sous le nom de César Francesco Barone, et non celui d'Adolphe James Rhode. Ils n'ont donc jamais connu son vrai nom, ni ses antécédents. Je sais aujourd'hui que s'il a fait ça, c'était pour pouvoir faire des choses encore plus mauvaises, sans se faire repérer. Mon frère menait une double vie. Il avait un côté sombre qui faisait des choses horribles. Il ne me disait pas ce qu'il faisait de son temps libre en Oregon. Mais il arrive un moment où les faits sont si flagrants qu'on ne peut qu'admettre la réalité. Un soir, j'étais à la maison. J'allume la télévision, et au moment où commence l'émission sur les plus grands ennemis publics, à l'écran apparaît le visage de mon frère. Mon cœur s'est presque arrêté. Il recherchait l'arme à feu qu'il avait utilisée pour commettre un meurtre en particulier. Jamais de la vie, je n'aurais imaginé voir un jour mon frère à l'écran. C'était horrible. J'ai ressenti de la honte. Puis immédiatement après, de la colère. Parce que je commençais enfin à comprendre qu'il m'avait menti tout le temps. Ils recherchaient mon frère pour plusieurs meurtres dont il était soupçonné. Entre 1991 et 1993, César a tué au moins 4 femmes à Portland, dans l'Oregon. Il en a aussi agressé sexuellement au moins 3 autres. Et la plupart de ses victimes étaient des femmes âgées qu'il a violées puis étranglées. Un après-midi, Jimmy m'a appelé depuis la prison pour me dire qu'il avait été arrêté. Il a ri et il m'a dit « J'ai rien fait. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. » Je ne l'ai pas vraiment cru, mais c'est ce qu'il m'a dit. Je n'avais pas la force d'y faire face, d'entendre encore ces mensonges. Je ne lui ai jamais dit que je ne le croyais pas. Je suis resté neutre. Je n'avais pas assez d'informations sur les meurtres à ce moment-là. Je n'en savais pas suffisamment pour le contredire. J'ai agi comme une grande sœur normale, parce que je l'aimais, et que je me sentais coupable de l'aimer. Je culpabilisais, car j'aurais dû l'empêcher d'agir, et être heureuse de le faire, mais je ne l'avais pas fait, et j'ai vraiment eu du mal avec ça. Je voulais faire ce qu'il fallait. Je pense que si les autorités ont souhaité me parler, c'est parce que, de toute évidence, je ne savais pas grand-chose de ces affaires. Ils sont donc venus et m'ont expliqué pendant une heure toutes les choses horribles dont Jimmy était accusé, par politesse pour moi, parce que j'étais dans le flou total.
On sait que toutes ces informations sont un peu surprenantes.
Ils m'ont dévoilé tant de preuves. J'étais stupéfaite de voir tout ce qu'il avait fait. C'était des rapports de police officiels, des dépositions de témoins. J'ai demandé, pensez-vous qu'il puisse ne pas se rendre compte de ce qu'il fait, que son esprit se déconnecte en quelque sorte, et qu'il ne soit pas conscient de ses actes? Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance que ce soit le cas et qu'ils pouvaient me le prouver. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Non, malheureusement.
Je pensais qu'il était parti dans l'Oregon pour commencer une nouvelle vie avec sa femme et son fils. Mais il était finalement là-bas pour continuer à tuer et violer les femmes. Des femmes âgées. J'ignore pourquoi il ciblait les femmes âgées. J'ai d'abord cru que c'était parce qu'elles étaient vulnérables et donc des cibles faciles. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas la seule raison. J'étais persuadée qu'il y avait un lien avec notre mère. Je pense qu'il avait des problèmes avec ma mère, qui nous avait quittés alors qu'il était encore tout petit. C'est horrible, encore aujourd'hui, de repenser à tout ce qu'il a fait. J'ai eu du mal à accepter qu'il puisse être aussi cruel. Et ce jour-là, j'ai changé. J'ai arrêté de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'y en avait plus. Et à ce moment-là, j'ai su en mon fort intérieur qu'il était coupable. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'admettre et de me rendre compte que c'était vrai. Et ma première pensée a été que j'allais perdre mon dernier frère. J'avais besoin de ça. À ce moment-là, pour m'aider à combler le fossé entre ce que je pensais de mon frère et ce qu'il était vraiment, et à comprendre que je ne connaissais pas cet homme. C'était horrible. Horrible. J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé m'en rendre compte. Plus tôt. C'est Martha Bryant. Et là, Margaret Schmidt. Et là, Shanti. Et là, Betty Williams. Et là, Alice Stock, notre ancienne voisine. Je suis tellement désolée qu'il vous a fait ça. Concernant Alice, Jimmy s'en est tiré à bon compte. C'était le début. C'est là, dans la maison d'Alice Stock, qu'il a commencé à tuer et qu'il est devenu cet horrible monstre. Le seul point commun de ces femmes, c'est qu'elles ont croisé le chemin du monstre. En tant que sœur de l'homme qui leur a ôté la vie, je n'oublierai jamais leur nom, ni leur visage. Je suis vraiment désolée de ce que mon frère vous a fait subir. Vous ne méritiez pas ça. Et je pense qu'il est tout à fait possible qu'il ait fait la même chose à d'autres personnes. Sans que personne ne le découvre. Personne ne savait que mon frère était un tueur en série. Je n'en ai pas parlé à grand monde. Mais ça fait du bien de dire à haute voix que c'est un monstre et un meurtrier. Ça fait vraiment du bien de le reconnaître et de le faire savoir au monde entier. Mon frère était mauvais. Très mauvais. Je ne le connaissais pas vraiment. Et je ne le pleurerai plus. Pour une fois, depuis 68 ans que j'existe, je peux être en paix avec tout ça. Car même si mon frère est une ordure et un meurtrier, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est lui le meurtrier, pas moi. C'est lui le meurtrier.
Le jour se levait à peine, laissant dans l'air cette lumière pâle et fragile que seule l'aube sait offrir. Les volets de la petite maison au bout de la ruelle pavée, restait encore clos. Pourtant, à l'intérieur, un parfum discret mais familier commençait déjà à flotter, celui du café fraîchement moulu. Elle se levait toujours avant le soleil, sans réveil, sans bruit. C'était comme si son corps connaissait l'heure exacte, comme si ses mains savaient déjà ce qu'elles allaient faire, avant même qu'elle ait ouvert les yeux. Dans la cuisine, tout était à sa place. Les tasses alignées dans l'armoire, la petite cafetière italienne posée sur la cuisinière, le paquet de café, soigneusement replié, près du pot à sucre. Elle ne se dépêchait jamais. Chaque geste avait sa lenteur, sa précision. Elle versait l'eau dans le réservoir, prenait une cuillère et déposait doucement la poudre brune dans le filtre, en égalisant la surface du bout du doigt. Puis elle sortait deux tasses, toujours deux, même ce matin-là, même depuis toutes ces années. Elle faisait chauffer la cafetière, le bruit caractéristique commençait, ce souffle, ce gargouillis qui annonçait la montée du café. Elle restait là, debout, à côté, les mains sur le rebord du plan de travail, observant la vapeur qui s'échappait. Un mince sourire passait sur son visage, pas un sourire joyeux, plutôt un sourire tendre, comme si elle parlait à quelqu'un en silence. Sur la table, elle posait les deux tasses, l'une à côté de l'autre, à égale distance, comme si un invisible convive allait s'asseoir face à elle. Elle versait dans chacune la même quantité, sans tricher. Dans la sienne, un peu de sucre. Dans l'autre, rien. Juste le noir profond, brillant, avec ses volutes fragiles. Elle s'asseyait ensuite, et là, le temps s'arrêtait. Dehors, la rue était encore vide, seulement traversée par un chat au pelage gris qui se faufilait derrière les murets. Le soleil, encore bas, venait caresser la nappe usée, laissant des éclats dorés danser sur le bois. Elle levait sa tasse, buvait une première gorgée et restait immobile quelques instants, les yeux fixés sur la chaise vide en face d'elle. Il y avait, dans ce rituel, quelque chose de fragile et de profond, une conversation muette que personne ne pouvait entendre. Elle ne parlait pas. Parfois, elle murmurait quelques mots, presque inaudibles, comme une réponse à une question qu'on ne posait plus. Parfois aussi, un éclat de rire léger traversait son visage, mais ses yeux restaient humides. Chaque matin, c'était la même scène. Et chaque matin, elle ne buvait jamais le deuxième café. Il restait là, refroidissant lentement jusqu'à ce qu'elle le verse dans l'évier une fois le soleil bien haut. Elle vivait seule, du moins aux yeux du quartier. Les voisins la saluaient poliment quand ils la croisaient, mais personne n'entrait vraiment chez elle. On savait qu'elle avait vécu ici longtemps, avec quelqu'un. On ne savait pas vraiment quoi, ni qui. Les histoires changeaient selon qui les racontait. Pour certains, c'était son mari, parti travailler un matin et jamais revenu. Pour d'autres, un frère ou un ami. Les plus romantiques disaient qu'elle avait aimé un homme que la mère lui avait pris et que depuis, elle l'attendait, chaque jour, avec une tasse de café. Mais elle, elle ne disait rien. Et dans son silence, il y avait une vérité que personne n'osait toucher. Le bruit léger de la cafetière, chaque matin, ressemblait à une respiration familière, presque humaine. Comme si la maison elle-même reprenait vie au moment où l'odeur du café commençait à envahir les pièces. C'était une odeur qui restait longtemps, jusque dans les rideaux, jusque dans les vêtements, et qui accompagnait la journée comme une présence discrète. Ce matin-là, elle avait ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air frais s'était engouffré, soulevant doucement le rideau de dentelle. La lumière, encore timide, passait à travers et dessinait sur le carrelage des ombres mouvantes. Elle posa sa main sur le rebord, inspira profondément, puis laissa son regard se perdre vers la rue. Rien de nouveau, juste les pavés humides de la pluie de la veille et le pas traînant d'un homme qui promenait son chien. Elle se retourna, attrapa les deux tasses, les posa côte à côte. Elle avait l'habitude d'aligner les anses dans la même direction. C'était un détail, mais pour elle, ces détails comptaient. Elle remplit la première, puis la deuxième, avec la même lenteur, comme on remplit un geste de sens plutôt qu'un objet de liquide. Elle prit place à sa chaise, posa les coudes sur la table, mais cette fois, au lieu de boire immédiatement, elle resta là, immobile, le regard posé sur le café, encore fumant. Ses doigts caressaient le bord de la tasse, dessinant des cercles invisibles, comme si elle cherchait à retenir la chaleur un peu plus longtemps. Par moments, ses yeux se levaient vers la chaise vide. Un coin de nappe replié, la trace légère d'un poids absent. Elle imaginait encore le bruit de la cuillère qui tournait dans la tasse, les éclats de voix qui remplissèrent la cuisine, les sourires qui se glissaient dans les phrases. C'était comme si, dans ce silence, elle pouvait encore entendre les morceaux d'une vie passée, suspendus dans l'air, refusant de disparaître complètement. Une fois, une voisine avait osé lui demander pourquoi elle faisait toujours deux cafés. C'était par un matin d'été, la porte ouverte, l'odeur irrésistible flottant jusque sur le trottoir. La voisine, curieuse mais gênée, avait lancé la question comme on jette un caillou dans l'eau, attendant de voir s'il y aurait des cercles. Elle avait souri, doucement, sans se vexer, mais n'avait pas répondu. Elle avait juste haussé les épaules et tourné la tête vers la table, comme pour dire que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. La voisine avait compris qu'il ne fallait pas insister. Dehors, un merle s'était posé sur le muret du jardin. Il observait la scène à travers la fenêtre, la tête légèrement penchée, comme intrigué. Elle lui sourit, leva sa tasse vers lui, comme pour trinquer à la vie, à tout ce qui restait, malgré tout. Le café refroidissait dans la deuxième tasse, comme chaque matin. Mais elle ne se pressait pas. Elle aimait voir la fumée se dissiper, lentement, comme une respiration qui s'apaise. Elle avait appris à apprécier cette lenteur, cette manière qu'a le temps de se dérouler sans rien brusquer. Dans ce rythme, il y avait une forme de paix. Elle songea, en portant sa tasse à ses lèvres, que peut-être un jour, quelqu'un s'assiérait à cette table, pas forcément la personne qu'elle attendait, pas forcément pour remplacer, juste quelqu'un. Mais ce matin encore, elle se contenta du silence, des odeurs, des gestes familiers, comme on enfile un vêtement usé qui garde la mémoire du corps. Les minutes passaient, égales, et le soleil, timidement, commençait à éclairer les murs de la cuisine. La lumière glissait sur les tasses, faisait briller le liquide noir. Elle tendit la main, effleura la tasse intacte, puis retira ses doigts comme si elle craignait de rompre un sort. Dans un coin, un vieux poste de radio attendait, éteint. Parfois, elle l'allumait, juste pour entendre des voix. Mais ce matin-là, elle ne le fit pas. Elle préféra écouter le silence, un silence qui n'était pas vide, mais plein de souvenirs. Et tandis qu'elle buvait la dernière gorgée de son café, elle se dit qu'il y avait, dans ces deux tasses, chaque matin, une façon de continuer. Pas de revivre. Juste de continuer. Ce matin-là, il faisait froid. Pas un froid agressif, mais un froid qui s'insinue doucement, qui vous pousse à resserrer votre gilet sur vous et à marcher un peu plus vite dans la maison. Elle avait enfilé un vieux cardigan gris, usé au coude, qui sentait encore la lessive et un peu la lavande. Ses pas étaient lents, mais réguliers, et dans cette lenteur, il y avait comme une danse silencieuse, un rituel presque sacré. Elle ouvrit le paquet de café. Le parfum, à lui seul, suffisait à lui tirer un soupir. Mélange d'habitude et de tendresse. Elle ferma les yeux une seconde, respira profondément. Le geste de remplir la cafetière, elle le faisait toujours, avec une attention particulière, comme si elle versait non pas de l'eau, mais des souvenirs. L'eau froide glissa dans le métal. La poudre brune tomba en pluie légère dans le filtre. Elle tapa légèrement sur le rebord pour que tout soit à plat. Puis, elle posa la cafetière sur le feu. Le petit claquement du gaz, suivi de cette flamme bleue discrète, marqua le début du moment qu'elle préférait. Elle sortit deux tasses. Ses mains effleurèrent leur surface lisse, les tenant avec précaution, comme on tient quelque chose de précieux. Une tasse blanche à liseré bleu pour elle, une tasse crème, à peine ébréchée sur le bord pour l'autre. C'étaient toujours les mêmes. Elle les plaça à la même distance l'une de l'autre, parfaitement alignées, comme si chaque millimètre comptait. Dehors, un brouillard léger s'était levé. On ne distinguait plus les collines au loin. La ruelle semblait plus silencieuse que d'ordinaire. Elle aimait ces matins-là, où le monde entier semblait vouloir dormir encore un peu. La cafetière commença à chanter doucement. Ce bruit, elle ne s'en lassait pas. Il avait accompagné tant de jours, tant de matins, heureux ou tristes. Elle versa le café, d'abord dans une tasse, puis dans l'autre. Dans la sienne, elle ajouta une cuillère de sucre. Dans l'autre, rien. Elle posa la cuillère à côté, son manche encore chaud de la vapeur. Elle resta un moment debout, les mains posées sur le dossier de sa chaise, à regarder les deux tasses comme on regarde une scène qu'on connaît par cœur, mais dont on ne se lasse jamais. Elle finit par s'asseoir. Le bois de la chaise grinça légèrement sous son poids. Elle entoura sa tasse de ses mains pour réchauffer ses doigts. Une première gorgée, douce, réconfortante, le goût amer et sucré à la fois, lui donna cette impression étrange de présence. Comme si boire, c'était déjà parler. Ses yeux se posèrent sur la chaise en face. Elle y voyait encore l'ombre de quelqu'un, la silhouette invisible qui lui tenait compagnie chaque matin. Ce n'était pas une illusion, c'était une mémoire. Et dans cette mémoire, la lumière tombait toujours de la même façon, les mains se posèrent sur la tasse au même instant. Un souvenir remonta. Un matin d'hiver, il y a longtemps, quand la neige couvrait la rue et que tout semblait arrêté. Ils avaient bu leur café en silence, observant les flocons tomber. Aucun mot n'était nécessaire. Ce jour-là, elle avait compris que certaines présences remplissent plus que 1000 conversations. Elle respira profondément. Ses yeux se perdirent un instant vers la fenêtre, où le brouillard s'épaississait encore. Une voiture passa. Lente. Les phares allumés. Le monde continuait, dehors, mais ici, à l'intérieur, le temps avait sa propre cadence. Elle ne toucha pas à la deuxième tasse. Elle ne le faisait jamais. Mais elle aimait la voir là, intacte, chaude encore, comme une preuve silencieuse que certains liens ne s'effacent pas. Même si personne ne s'assoit. Même si personne ne boit. Et lorsque la vapeur commença à disparaître, elle se leva, prit la tasse refroidie entre ses mains et resta ainsi, debout, quelques instants. Puis, elle alla vers l'évier et, avec un soin étrange, versa doucement le café. Pas d'un geste rapide, mais lentement, comme si elle remettait quelque chose à plus tard, comme si elle disait « pas aujourd'hui, mais peut-être demain ». La pluie avait commencé pendant la nuit. De fines gouttes s'écrasèrent contre les vitres, dessinant des sillons brillants qui glissaient jusqu'au rebord. Le ciel était bas, uniforme, d'un gris tendre. Dans la cuisine, la lumière du matin se reflétait sur les carreaux humides, donnant à la pièce une atmosphère douce, presque cotonneuse. Elle aimait ces matins de pluie. Ils invitaient à rester plus longtemps dans le silence, à savourer la lenteur. Les bruits du monde semblaient moitié filtrés, comme si la pluie avait le pouvoir d'adoucir tout ce qu'elle touchait. Elle sortit la cafetière de son emplacement habituel. Ses doigts en connaissaient chaque imperfection, chaque rayure sur le métal. Elle mesura l'eau, ajouta le café, nivelant la surface d'un geste calme. Le parfum monta déjà, léger, avant même que la chaleur ne fasse son œuvre. Elle alluma le gaz, posa la cafetière et s'adossa un instant au plan de travail. Ses yeux se posèrent-ils sur le mur, là où était accrochée une petite étagère en bois. Sur cette étagère, un cadre photo, retourné. Elle ne le retournait jamais. Elle savait parfaitement ce qu'il montrait, chaque nuance, chaque sourire. Mais ce matin-là, ses doigts hésitèrent. Elle les posa sur le cadre, les caressa, puis se ravisa. Ce n'était pas le moment. La cafetière commença son chuintement familier, cette montée en pression qui, à ses oreilles, avait toujours ressemblé à un cœur qui bat plus vite. Elle prit les deux tasses, les plaça à leur place habituelle. Le bruit régulier de la pluie se mêlait au souffle de la cafetière. La maison respirait. Elle versa le café dans les deux tasses. Le noir brillant y tourbillonnait doucement, libérant sa vapeur parfumée. Dans la sienne, elle ajouta du sucre. Dans l'autre, rien. Elle s'assit, entoura sa tasse de ses mains, ferma les yeux à la première gorgée. L'amertume se mêla à la chaleur, comme une caresse familière. Face à elle, la tasse intacte attendait. La vapeur montait en volutes fines, se dissipant dans la lumière grise de la fenêtre. Elle la regarda longtemps, comme on écoute quelqu'un parler sans intervenir. Et dans ce regard, il y avait de l'amour, mais aussi une forme de patience, celle qu'on cultive quand on sait que les réponses ne viendront plus. Un souvenir revint, vif, précis. Un autre matin de pluie, des années auparavant. Ils étaient assis tous les deux, exactement à cette table. Il avait pris la tasse sans sucre, l'avait portée à ses lèvres, puis avait relevé les yeux vers elle, avec ce sourire qui disait plus que des mots. Ils avaient dû parler ce matin-là de choses simples, de la fuite au toit, de la couleur que prend la mer sous l'orage, de la façon dont le café a meilleur goût quand il pleut. Rien d'extraordinaire, et pourtant, c'était un de ces souvenirs qui restent intacts comme protégés par une cloche de verre. Elle reposa sa tasse, se leva lentement. La pluie battait un peu plus fort maintenant. Elle alla jusqu'à la fenêtre, ouvrit un battant. L'air humide entra, portant avec lui cette odeur unique, mélange de terre et de ciel. Elle respira profondément. Ses yeux glissèrent sur la rue vide. Un instant, elle crut voir une silhouette familière au coin de la rue. Mais la pluie brouillait les contours et la vision s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. Elle referma doucement la fenêtre, revint s'asseoir. La deuxième tasse était encore chaude. Elle tendit la main, effleura le bord comme pour vérifier que la chaleur était réelle. Puis, elle la laissa là. Ce café-là, comme toujours, n'était pas pour elle. Il était pour ce vide qu'elle avait apprivoisé, pour cette absence devenue présence, pour cette conversation silencieuse qu'elle continuait, jour après jour. Et tandis que la pluie continuait de tomber, elle se dit que parfois, aimer, c'est simplement laisser une place. Même si cette place reste vide. Ce matin-là, le ciel avait pris une teinte claire, presque laiteuse, et l'air semblait plus doux qu'à l'ordinaire. Elle s'était réveillée avant même que la lumière ne pénètre dans la chambre, comme toujours, mais avec une sensation différente, un calme particulier qui flottait dans l'air. En posant les pieds sur le parquet froid, elle avait ressenti cette familiarité, ce lien invisible entre ses gestes et le jour qui commençait. Elle descendit l'escalier, les mains effleurant la rampe, et entra dans la cuisine encore plongée dans l'ombre. Ses doigts trouvèrent donc sans hésiter la cafetière italienne, le pot de café, le petit sucre blanc. Elle fit les mêmes gestes, toujours les mêmes, avec cette lenteur volontaire qui donnait à chaque matin le goût d'un moment choisi. Mais ce matin-là, alors qu'elle versait l'eau dans le réservoir, une image lui revint. Une image ancienne, douce et lointaine. Le tout premier café qu'ils avaient le partagé. pas dans cette maison-ci, mais dans un petit appartement au 5e étage, avec des fenêtres qui donnaient sur les toits. Le soleil était entré par la lucarne, éclairant la table de bois qu'ils avaient installée de travers, faute d'espace. Elle se souvenait avoir préparé 2 tasses, un peu maladroitement. Elle ne buvait pas encore de café à cette époque, mais elle avait voulu en faire pour lui. Il avait pris la tasse, l'avait goûtée, et avait éclaté de rire en disant qu'il n'avait jamais bu quelque chose d'aussi fort. Elle avait rougi, ri aussi, et il avait ajouté « On a tout le temps d'apprendre ». C'était devenu une phrase à eux, répétée pour toutes les petites maladresses de la vie quotidienne. Dans la cuisine, la cafetière commença à émettre ce souffle familier, la promesse que le café était presque prêt. Elle sortit les 2 tasses, la blanche à liseré bleu, la crème légèrement ébréchée. Les mêmes depuis tant d'années. Elle les aligna, comme pour aligner le passé et le présent. Elle versa le café, ajouta le sucre dans la sienne. Elle resta debout un instant, observant la vapeur s'élever, et dans cette vapeur, elle crut revoir ce matin-là les éclats de rire, la maladresse des débuts, et surtout la douceur d'être 2 à inventer leurs habitudes. Elle s'assit à table. Le bois était tiède sous ses mains, chauffé par la lumière pâle du jour qui filtrait à travers les rideaux. Face à elle, la tasse intacte dégageait son parfum. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient partagé autour de ce simple geste. Les matins pressés, où le café se buvait en silence avant de courir vers le dehors. Les matins lents, où ils restaient assis longtemps, parlant de tout et de rien, laissant la cafetière refroidir sur le coin du plan de travail. Ses doigts glissèrent machinalement sur la cuillère, posée près de la tasse intacte. Elle se souvenait de la manière dont il la tenait, du petit tintement qu'elle faisait contre la porcelaine quand il tournait son café. Ce son, elle aurait pu le reconnaître parmi 1000 autres. Et dans le silence qui emplissait la pièce, elle crut l'entendre encore, quelque part entre la mémoire et l'imagination. Dehors, un rayon de soleil se fraya un chemin à travers les nuages et vint se poser directement sur la table. Il éclaira les 2 tasses et l'ombre de l'une se fondit dans celle de l'autre, comme si elle ne faisait plus qu'une. Elle resta là, immobile, à regarder cette fusion fragile, sentant que dans ce simple alignement d'ombre se cachait quelque chose de vrai, l'idée qu'on ne se sépare jamais vraiment. Elle porta sa tasse à ses lèvres, laissa la chaleur lui envahir la bouche, descendre lentement. Chaque gorgée était un voyage minuscule vers ce temps-là. Elle ne se pressait pas. Elle savait qu'à la fin, il resterait l'autre tasse, refroidie, et que ce serait le signe que le matin pouvait se refermer. Mais avant, il y avait ce moment suspendu, où les 2 cafés fumaient encore, où les 2 présences, l'une tangible et l'autre invisible, partageaient la même lumière. Elle tendit la main vers la tasse intacte, effleura le bord, puis la retira doucement. Ce café n'était pas pour elle, il ne l'avait jamais été, et tant qu'elle se lèverait chaque matin, il continuerait d'exister. La lumière de ce matin-là filtrait doucement à travers les rideaux. Elle avait cette couleur dorée qui n'appartient qu'au début de journée de printemps, quand l'air est encore frais, mais que le monde semble prêt à éclore. La maison, silencieuse, respirait au rythme de ses pas. Chaque mouvement, chaque froissement de tissu, chaque soupir faisait partie d'un langage connu d'elle seule. Elle alla vers la cafetière, saisit le paquet de café. En le tenant entre ses mains, elle sentit, comme toujours, cette petite tension dans la poitrine. La conscience que ce geste était plus qu'un geste. L'eau froide coula dans le réservoir, la poudre brune s'installa dans le filtre, et la promesse du parfum à venir se glissa déjà dans l'air. Elle s'arrêta un instant, la main posée sur le plan de travail, les yeux fermés. Une image lui revint, claire comme un matin neuf. C'était un jour d'été, longtemps auparavant. La fenêtre de la cuisine était grande ouverte et le parfum du café se mélangeait à celui du jasmin qui grimpait sur le mur extérieur. Il était assis à la table, en chemise claire, les manches retroussées. Il lisait le journal, mais relevait les yeux à chaque phrase qu'elle prononçait, comme si aucun mot ne devait se perdre entre Kainje. Elle se souvenait du bruit de la cuillère contre la porcelaine, du léger éclat de rire qu'il avait laissé échapper en lui disant qu'elle mettait trop de sucre. « C'est comme ça que je l'aime », avait-elle répondu, et il avait haussé les épaules en souriant, ajoutant « Alors continue ». Si ce « continue », elle l'avait gardé en elle, pas seulement pour le café, pour tout, comme une bénédiction discrète qui l'accompagnait encore aujourd'hui. La cafetière commença à chanter, ramenant le présent dans la pièce. Elle sortit les deux tasses, la blanche à liseré bleu, la crème ébréchée, les plaça à leur place exacte, à la distance parfaite. Ce petit espace entre elles n'avait jamais changé, comme une frontière invisible que personne n'avait jamais voulu franchir. Elle versa le café, le liquide sombre se mêlant à la lumière du matin. Elle ajouta le sucre dans la sienne, remua lentement. La vapeur, qui s'élevait, formait des spirales qui semblaient danser un instant avant de disparaître. Elle s'assit, prit une gorgée, sentit la chaleur glisser en elle. Son regard se posa sur la tasse intacte. Pendant un instant, elle y a eu l'impression de la voir se déplacer légèrement, comme si une main invisible venait de la tourner d'un quart de cercle. Elle cligna des yeux. Non, elle était restée immobile. Mais la sensation, elle, persista. Ce frisson doux, presque agréable, celui de sentir que l'absence n'est pas un vide, mais un espace habité autrement. Dehors, le quartier s'animait lentement. Un enfant passa en courant, tenant un cartable plus grand que lui. Un voisin leva la main pour la saluer à travers la fenêtre et elle répondit d'un sourire discret. Puis son attention revint vers la table, vers ce moment qui, chaque matin, lui appartenait entièrement. Elle posa sa main sur la nappe, à l'endroit exact où, autrefois, ses doigts avaient dû frôler les siens. Ce contact avait été si léger qu'elle aurait pu croire à un accident, mais il avait duré juste assez longtemps pour qu'elle comprenne que ce n'en était pas un. Dans ce frôlement, il y avait eu toute la promesse de ce qu'ils allaient dû vivre. Le café refroidissait dans l'autre tasse. Elle le savait, et pourtant elle ne se pressait pas. Elle aimait ce lent passage de la chaleur au tiède, du tiède au froid. Comme si cette transformation lente contenait un langage que seuls eux deux comprenaient. Quand la vapeur se fut complètement dissipée, elle prit la tasse intacte dans ses mains, la garda un instant, puis la reposa doucement. Elle resta ainsi, les doigts encore autour du vide, et dans le silence, elle murmura. Le matin s'annonçait clair, presque éclatant. La lumière pénétrait dans la cuisine comme une visite amicale, venant caresser les murs, jouer sur les tasses rangées dans l'armoire, se poser sur la cafetière encore froide. Elle ouvrit la fenêtre. L'air frais entra d'un coup, portant avec lui des odeurs d'herbes humides et de pain chaud qui venaient de la boulangerie au coin de la rue. Elle resta quelques secondes ainsi, les yeux fermés, à laisser la brise lui frôler le visage. Ce souffle lui rappela un jour particulier, un matin, qui avait commencé comme tous les autres, mais qui, avec le recul, avait pris une place unique dans sa mémoire. C'était un matin de fin d'été. Il s'était réveillé tôt, sans raison. La lumière filtrait par les rideaux entrouverts, douce et dorée. Elle s'était levée pour préparer le café, mais il l'avait suivie dans la cuisine, ce qu'il ne faisait pas souvent. Il s'était placé derrière elle, avait posé ses mains sur ses hanches, et ils étaient restés ainsi, en silence, écoutant le premier gargouillement de la cafetière. Elle se souvenait de ce moment avec une précision presque douloureuse. Le parfum du café qui montait, la chaleur de ses mains, et surtout cette sensation étrange d'être exactement à sa place. Quand elle s'était tournée pour le regarder, il avait pris une tasse, l'avait remplie à moitié, et lui avait tendu avec ce sourire qui disait « C'est pour toi ». Ce matin-là, ils avaient bu ensemble, debout, adossés au plan de travail, comme deux enfants surpris à faire quelque chose d'interdit. Aujourd'hui, en reproduisant chaque geste, elle sentait encore ce souvenir couler dans ses veines comme une seconde tasse invisible. Elle mesura l'eau, ajouta la poudre, la nivela soigneusement. Le métal de la cafetière claqua légèrement contre le feu et déjà le parfum se répandait, fidèle, réconfortant. Les deux tasses apparurent sur la table, dans leur place immuable. Elle versa le café, ajouta du sucre dans la sienne. La vapeur s'éleva en volutes paresseuses, capturant la lumière matinale. Elle s'assit, prit une gorgée, revalidit, ferma les yeux. Le goût, l'odeur, la chaleur, tout lui parlait. Face à elle, la tasse intacte dégageait toujours ce parfum noir et profond. Elle tendit la main vers elle, la frôla du bout des doigts, puis se retira. Elle savait que le simple fait de la laisser là, chaude, suffisait. C'était son langage, c'était leur manière de se dire que le lien restait vivant. Dehors, un vélo passa lentement sur les pavés, faisant crisser ses pneus sur la pierre humide. Une femme tirait un chariot rempli de fleurs. Le monde vivait sa vie, et dans cette petite cuisine, un autre monde, plus discret, continuait aussi. Elle se surprit à sourire en se souvenant d'une phrase qu'il aimait répéter. « Le café, c'est la seule chose qui est meilleure quand on la partage. » Elle n'avait jamais su s'il parlait vraiment du café ou de la vie en général. Mais chaque matin, en posant les deux tasses sur la table, elle lui donnait raison. Elle termina sa tasse, mais resta à table, les mains posées à plat sur le bois. La chaleur avait quitté la tasse intacte et elle regarda ce changement comme on regarde une journée qui s'achève. Quand elle se leva enfin, elle prit la tasse refroidie, la garda un instant entre ses mains, puis la vida dans l'évier avec ce soin presque cérémoniel. Elle resta là, debout, à regarder l'eau couler, et murmura « À demain ». Le matin était gris, sans pluie, mais avec ce voile lourd qui rend le ciel uniforme. La cuisine semblait plus silencieuse que d'ordinaire, comme si même les murs attendaient quelque chose. Elle entra pieds nus, sentant le froid du carrelage remonter jusque dans ses jambes. Ce frisson ne l'empêcha pas de suivre la routine, mais ses gestes avaient ce jour-là une lenteur encore plus marquée. Elle posa la cafetière sur le plan de travail et, avant même de l'ouvrir, resta un long moment à fixer le métal poli. Dans le reflet, elle apercevait un visage fatigué, des yeux qui avaient perdu un peu de lumière. Elle inspira profondément, comme pour repousser cette image, puis sortit le paquet de café. Ce parfum, il avait toujours eu le pouvoir de ramener la chaleur dans sa poitrine, même dans les matins les plus froids. Mais aujourd'hui, il déclencha aussi une douleur douce, une pointe de nostalgie qui piquait les yeux. Elle versa l'eau dans le réservoir, la poudre dans le filtre, et alluma le gaz. En attendant que le café monte, ses mains cherchèrent quelque chose à faire. Elles finirent par ouvrir le tiroir où se trouvait une vieille enveloppe, jaunie par les années. Elle ne l'ouvrit pas. Elle savait exactement ce qu'il y avait dedans, quelques mots, écrits de sa main à lui, la dernière fois qu'il avait quitté la maison au petit matin. Elle se souvenait parfaitement de ce jour. Il s'était levé tôt, plus tôt qu'elle. Quand elle était descendue, il avait déjà bu son café, laissant la tasse à moitié pleine sur la table. Elle avait voulu plaisanter sur le fait qu'il l'abandonnait, mais il l'avait embrassée sur le front, lui avait dit qu'il ne serait pas long. Puis il avait franchi la porte. Elle n'avait pas su que c'était la dernière fois qu'elle le verrait. Le bruit de la cafetière la ramena au présent. Elle prit les deux tasses, les plaça à leur place habituelle. Elle versa le café, ajouta le sucre dans la sienne. La chaleur se propagea dans ses doigts comme un baume. Elle leva la tasse à ses lèvres, prit une gorgée. La chaise en face restait vide, comme chaque matin depuis ce jour-là. Mais ce vide n'était pas muet. Il parlait. Dans ce silence, elle entendait encore ses pas dans le couloir, le froissement de sa veste, le claquement léger de la porte d'entrée. Elle posa sa tasse, fixa la deuxième, intacte. La vapeur s'élevait lentement, formant des arabesques fragiles. Elle pensa à toutes ces fois où il s'était assis là, parfois en riant, parfois en silence, parfois avec l'air préoccupé, mais toujours avec cette manière de tenir la tasse à deux mains, comme si le café devait le protéger de quelque chose. Dehors, un camion passa dans la rue, faisant vibrer légèrement les vitres. Elle ne détourna pas les yeux de la tasse. Elle savait que ce café refroidirait comme tous les autres. C'était la règle. Mais le préparer chaque matin, c'était comme tendre un fil entre avant et maintenant, un fil qu'elle refusait de couper. Lorsque la vapeur disparut complètement, elle prit la tasse, la garda entre ses mains un long moment. Puis, au lieu de la vider immédiatement, elle la posa doucement sur le rebord de la fenêtre ouverte. Le parfum se mêla à l'air frais, se répandit dans la ruelle, comme si quelque part il pouvait encore le sentir. Elle referma la fenêtre, revint s'asseoir, ses mains entourèrent sa propre tasse encore tiède. Elle ferma les yeux, et dans le noir, derrière ses paupières, elle le revit franchir la porte, se retourner une dernière fois pour lui sourire. La nuit avait été agitée, non pas à cause d'un bruit particulier, mais parce que le sommeil, ce soir-là, s'était fait capricieux. Elle avait tourné et retourné dans son lit, les draps froissés autour d'elle, comme si quelque chose, quelque part dans son esprit, refusait de se taire. Quand enfin l'aube était venue, ce n'était pas avec la douceur habituelle, mais avec un éclat de lumière pâle qui l'avait presque surprise. Elle descendit les escaliers lentement, une main sur la rampe, l'autre frôlant la tapisserie usée. En entrant dans la cuisine, elle sentit immédiatement le calme familier de la pièce. Ici, rien ne changeait. Ici, tout restait à sa place. C'était pour cela, peut-être, qu'elle s'y sentait protégée. Elle posa la cafetière sur le plan de travail. Le simple poids de l'objet dans ses mains lui donna cette sensation étrange de continuité, comme si chaque matin venait se greffer au précédent. L'eau froide coula, claire et précise. La poudre de café tomba dans le filtre en un petit nuage brun. Elle tapa légèrement pour égaliser, alluma le gaz, et le léger souffle de la flamme bleue accompagna le début de la journée. Pendant que la cafetière se réchauffait, elle ouvrit l'armoire et sortit les deux tasses. Elle les prit comme on prend quelque chose de fragile, avec un soin presque exagéré. La blanche à liseré bleu, la crème ébréchée. Elle les posa sur la table, parfaitement alignées. Ce geste, répété des centaines de fois, avait quelque chose d'hypnotique. Elle resta debout un moment, ses mains posées à plat sur le bois, observant les tasses vides comme on observe deux silhouettes en attente. Puis, le bruit caractéristique du café qui monte rompit le silence, et elle s'en approcha. Le parfum emplit la pièce, chaud, rassurant. Elle versa, d'abord dans la sienne, puis dans l'autre. Dans la sienne, elle ajouta le sucre, remua lentement. Dans l'autre, rien. Jamais rien. Elle s'assit, prit une gorgée. La chaleur envahit sa bouche, descendit dans sa poitrine. Ses yeux restaient nés fixés sur la tasse intacte. Dans ce regard, il y avait toute la tendresse qu'on peut porter à quelqu'un absent, mais jamais oublié. Elle se souvint d'un matin particulier, peu de temps après sa disparition. Elle avait hésité à préparer deux cafés. Elle s'était demandé si ce n'était pas ridicule, si ce n'était pas une manière de s'enfermer dans le passé. Mais quand elle avait bu seule, avec une seule tasse sur la table, quelque chose en elle s'était effondré. Alors, dès le lendemain, elle avait recommencé. Deux tasses, toujours. Ce jour-là, elle avait compris que ce n'était pas une question de café. C'était une question de présence. Tant que la deuxième tasse serait là, le lien ne serait pas rompu. Tant qu'elle verserait le café dans les deux tasses, il continuerait à exister quelque part, dans cet espace invisible entre le souvenir et le réel. Dehors, la lumière changeait. Un nuage masqua le soleil, plongeant la pièce dans une semi-pénombre. Elle aimait ce contraste, cette façon qu'avait la lumière de jouer avec les contours des objets. La tasse intacte semblait presque plus réelle que tout le reste. Elle imaginait parfois qu'il était assis là, que ses mains se posaient sur la porcelaine chaude, que ses yeux se levaient vers elle. Et pendant quelques secondes, elle y croyait. Elle termina son café, posa la tasse vide devant elle, mais resta assise. Ses doigts glissèrent vers la tasse intacte. Elle la toucha, sentit que la chaleur commençait déjà à s'en aller. Elle ne la prit pas tout de suite. Elle laissa ce moment durer, comme on laisse un livre ouvert sur la dernière page, juste pour ne pas avoir à le refermer. Quand enfin elle se leva, ce fut avec lenteur. Elle prit la tasse, la garda dans ses mains un long moment, comme si elle lui transmettait un dernier geste d'affection. Puis, elle la vida dans l'évier, regardant le liquide sombre disparaître, comme on regarde un secret s'éloigner doucement. Elle posa la tasse à sécher, remit la cafetière à sa place et jeta un dernier coup d'œil à la table vide. Demain, elle recommencerait. Parce que certaines habitudes ne sont pas là pour être oubliées. Elles sont là pour maintenir le fil tendu, aussi fin soit-il. Le jour se leva plus lentement que d'habitude, comme si le ciel lui-même hésitait à s'ouvrir. La lumière, d'abord timide, glissait par petites touches sur les murs, effleurant les rideaux de dentelle avant de se poser sur la table encore vide. Dans cette clarté hésitante, la cuisine semblait figée, suspendue dans un moment qui n'appartenait à aucune heure précise. Elle entra, pieds nus, le pas feutré, comme si elle ne voulait pas troubler le calme qui régnait. Ses mains trouvèrent la cafetière sans même la chercher, comme toujours. Mais ce matin-là, elle resta un instant immobile, les doigts posés sur le métal froid, les yeux fixés sur la fenêtre où le ciel commençait à s'éclaircir. Elle versa l'eau, ajouta la poudre brune, égalisa soigneusement. Chaque geste, répété 1000 fois, avait gardé la même précision, la même lenteur volontaire. La flamme bleue s'alluma, la cafetière se posa dessus, et bientôt, le premier souffle chaud se fit entendre. Elle sortit les deux tasses. La blanche à liseré bleu, la crème, légèrement ébréchée. Elles se frôlèrent à peine lorsqu'elle les posa sur la table, comme deux compagnons silencieux qui se retrouvent. Elle les observa un moment, puis se détourna pour préparer le sucre. Le parfum du café emplit la cuisine. Elle ferma les yeux, le respira profondément. C'était plus qu'une odeur, c'était une mémoire, c'était la trace invisible de chaque matin passé, de chaque conversation, de chaque silence partagé. Elle versa le café dans les deux tasses, ajouta le sucre dans la sienne, puis elle s'assit. Le bois de la chaise grinça doucement, comme pour l'accompagner. Elle entoura sa tasse de ses mains et la porta à ses lèvres. La chaleur coula en elle, familière, réconfortante. La tasse intacte, en face, fumait tranquillement. La vapeur s'élevait, dansant au-dessus du liquide noir avant de disparaître dans la lumière. Elle la regarda longtemps, comme on regarde quelqu'un respirer. Et dans son regard, il y avait autant d'amour que de paix. Elle pensa à tous ces matins où elle avait refait le même geste, à toutes les fois où elle avait attendu que la vapeur s'éteigne avant de vider la tasse, à toutes les saisons qui étaient passées devant cette fenêtre, les pluies d'hiver, les fleurs du printemps, les chaleurs écrasantes de l'été, les feuilles mortes de l'automne. Et à travers tout cela, les deux tasses avaient toujours été là, fidèles, immobiles, reliées par un fil invisible. Dehors, un rayon de soleil perça enfin les nuages et vint se poser sur la table. La lumière glissa sur les tasses et leurs ombres se touchèrent, se confondirent un instant. Elle sentit quelque chose se détendre en elle, comme si ce contact fugace entre deux silhouettes muettes avait suffi à lui rappeler que, d'une certaine manière, rien n'était vraiment perdu. Elle termina son café, mais ne bougea pas. Ses mains restèrent autour de la tasse vide, le regard toujours fixé sur l'autre. Elle murmura alors d'une voix douce, presque imperceptible, « Tu sais, j'ai appris à continuer, mais je n'ai jamais appris à ne pas t'attendre. » Elle laissa la phrase flotter dans l'air. Puis, lentement, elle prit la tasse intacte. Elle la garda dans ses mains, sentant la chaleur s'en aller peu à peu. Elle ne se pressa pas. Elle savoura ce dernier instant comme on savoure un adieu qui n'en est pas vraiment un. Quand le liquide fut froid, elle se leva. Au lieu de le verser dans l'évier, elle ouvrit la porte donnant sur le jardin. L'air frais entra, portant avec lui l'odeur de la terre encore humide. Elle s'avança jusqu'au petit muret de pierre, leva la tasse et la vida doucement sur le sol, là où poussaient quelques fleurs sauvages, comme une offrande. Elle resta dehors quelques secondes, le visage tourné vers la lumière du matin. Puis elle rentra, reposa la tasse à sa place et laissa ses doigts glisser sur le bois de la table. Un mince sourire éclaira ses lèvres. Demain, elle recommencerait. Et le jour d'après aussi, parce qu'il y avait, dans ce geste répété, une promesse qu'elle n'avait jamais rompue. Dans la cuisine, les deux tasses attendaient déjà le prochain matin.